Lorsque vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Genèse 14. On va aujourd'hui finir l'étude des derniers versets, soit les versets 17 à 24. Genèse 14, versets 17 à 24. Et le roi de Sodome sortit au-devant de lui, après qu'il fut revenu de battre Kedor la Homer, et les rois qui étaient avec lui, dans la vallée de la plaine, qui est la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu très haut. Et il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les richesses et prends les riches, donne-moi les personnes et prends les richesses pour toi. » Et Abraham dit au roi de Sodome, « Je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre, que je ne prendrai pas même un fil ou une courroie de souliers, rien qui t'appartienne, en sorte que tu ne dises pas, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce que les jeunes gens ont mangé et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Eskol et Mamré, pour eux qu'ils prennent leur part. » Alors, on va demander au Seigneur de nous bénir, de nous ouvrir l'intelligence à la compréhension de sa parole. Notre Dieu, nous sommes tes enfants, comme on l'a mentionné un petit peu tantôt dans le premier chapitre d'Éphésiens, Seigneur. Tu nous as choisis de toute éternité pour devenir tes enfants, pour que nous sanctifions, pour t'apporter honneur et gloire. Bien sûr, Seigneur, un des moyens de grâce que tu nous as laissés pour faire cela, bien entendu, c'est l'étude de ta parole, la lecture de ta parole, la compréhension des principes qui y sont inscrits, et surtout, Seigneur, la mise en pratique de toutes ces choses-là dans nos vies de tous les jours. Sinon, les enseignements sont sans valeur. Et Seigneur, permets que ce matin, ton esprit vraiment éclaire nos intelligences, prépare notre être à la réception de ta parole, permets qu'on soit attentif, qu'on retienne les principes que tu veux nous enseigner et que ces choses-là amènent des changements concrets dans notre vie de tous les jours. C'est ce qu'on te demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, j'ai intitulé aujourd'hui la leçon « Le retour triomphal d'Abraham de la guerre et sa rencontre avec deux rois. » Alors, quand on regarde le texte, on voit définitivement que c'est ça l'idée fondamentale du texte. Alors, il y a la rencontre d'Abraham avec Melchisédek, dans les versets 18 à 20. Et il y a la rencontre d'Abraham avec le roi de Sodome, dans le verset 17 et les versets 21 à 24. Alors, dans notre sermon de la semaine dernière, on avait vu que le Très-Haut, on avait vu que le nom qui était dans l'hébreu original, c'était El Elyon. Alors, El Elyon, c'est vraiment le Dieu très puissant, le Dieu qui est au contrôle de toutes les circonstances, de tout ce qui se passe sur la terre, permettait la guerre. La guerre, c'est pas quelque chose, bien sûr, ce sont les hommes, à cause du péché, qui la fomentent, qu'on peut dire, ça arrive à cause d'eux. Mais bien entendu, au-dessus de tout ça, la main du Seigneur contrôle toutes ces choses-là. Et on avait vu qu'il s'en sert, le Seigneur, pour diverses fins, dont punir les méchants et aussi juger son peuple. On avait vu que la semaine dernière, qu'il s'était servi de cette guerre-là, du fait que les rois avaient pris Lot, qui s'était établi à Sodome, il l'avait emmené avec eux, il avait pris sa famille, il avait pris ses biens, et c'est une façon pour Dieu de juger son serviteur qui avait très mal agi quand il était placé devant le choix avec Abraham. Alors, on avait appris dans notre leçon précédente que Dieu a le contrôle de ce qui se passe dans la guerre. Il avait permis que son serviteur, qu'il y avait quelqu'un qui s'était échappé, de la guerre, qui était venu le voir pour l'informer que son neveu Lot avait été amené prisonnier de guerre avec tous ses biens. Et bien sûr, Abraham aurait pu dire, bon, ben, il a voulu s'en aller à Sodome, mais qu'il s'arrange avec ses problèmes. Non, il le reconnaissait comme un frère. Même la Bible déclare Lot comme un frère en Christ. Cependant, quand on regarde la vie de Lot, c'est loin pour nous d'être un exemple à imiter dans nos vies de tous les jours. Il y a eu une vie charnelle et il y a eu une vie beaucoup plus problématique, qu'on pourrait dire, pour le moins, qu'on puisse dire pour lui. Mais Dieu l'avait sauvé quand même. Et Abraham, c'était son neveu, et il n'est pas resté indifférent devant le sort. Et il a décidé, comme on l'avait vu la semaine dernière, de sortir avec 318 guerriers. À cette époque-là, c'était une grosse armée. Et il avait repris le contrôle, il avait gagné la guerre, et il avait ramené les biens, ramené la personne, les personnes et les biens de tous ceux qui avaient été conquis. On se souvient que c'était 5 rois contre 4. Les 5 rois ont été battus, les 4 s'étaient révoltés, et malgré leur révolte, à cause d'Abraham, Dieu permet qu'ils reviennent victorieux. Alors, le Seigneur, on a appris, El Elyon, le Dieu, le nom de Dieu, qu'il contrôle absolument toutes choses. El Elyon, c'est un nom qui traduit la souveraineté absolue de Dieu sur toutes choses, dont les nations, dont les individus, ça c'est nous. Pas juste les individus sauvés que le Seigneur contrôle, tous les individus de toute la terre. Maintenant, les événements, tout ce qui arrive dans nos vies, sans exception, c'est la main de Dieu qui permet que ça arrive dans nos vies. Et derrière tous les événements que Dieu permet qui arrivent dans nos vies, il y a beaucoup de sagesse. Ça dit dans Romains 8, 28, « Toute chose contribue au bien de celui qui aime Dieu. » Très facile à dire, un peu plus difficile à réaliser quand les choses arrivent. Parce que toute chose contribue, quand il nous arrive une affaire qui nous déplaît, qui nous défrise, comme on dit en québécois, on est porté là, Dieu m'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Il permet que cet événement arrive dans ta vie pour une raison sage. Il y a quelque chose d'intelligent et de sage en arrière de tout cela. Il suffit pour nous, les chrétiens, à un moment donné, de le comprendre et de l'appliquer. L'appliquer, c'est que quand on s'en rend compte qu'il arrive des choses dans nos vies, reconnaître la main de Dieu, et se soumettre tout simplement. Et même la vie dans la joie, c'est même possible ça aussi. Mais ce n'est pas un apprentissage qui se fait du jour au lendemain. Ça prend beaucoup d'expérience avant qu'on puisse arriver à faire de pareilles choses. Donc, Dieu contrôle absolument les événements et les circonstances de nos vies. Une leçon très longue à apprendre. Ça fait 38 ans, je suis chrétien. Pas sûr que je l'ai encore appris à 100%. Je ne l'apprendrai jamais de toute façon à 100%. Parce que si quelqu'un apprendrait ça à 100%, il serait toujours de bonne humeur. Peu importe ce qui arrive, parce qu'il verrait la main de Dieu dans l'événement et il se soumettrait, il serait heureux de le vivre parce qu'il dirait, Dieu, même si c'est douloureux, Dieu permet que je vive ça pour une raison très précise. Alors ici, on voit que le Seigneur avait accordé une victoire éclatante à Abraham dans cette guerre-là. Il lui avait donné d'agir avec rapidité, avec courage, avec audace et avec sagesse aussi. Parce que dans sa manière d'attaquer de nuit, dans sa manière d'attaquer rapidement, tout cela, la main de Dieu était avec lui dans tout cela. Alors il a pu délivrer son neveu Lot et sa famille, récupérer les biens de l'ensemble de toutes ces sociétés-là qui avaient été conquis, et les biens aussi de tous les rois et de tous leurs sujets qui avaient été battus par les 5 rois. Alors, on va voir au verset... j'ai marqué... OK, le verset 18. On va regarder un petit peu... le premier point qu'on va regarder, c'est la rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Bien sûr, le texte qu'on étudie ce matin commence par le verset 17, mais le verset 17, il est comme séparé, parce que 18 à 20 parle de Melchisédek, Et 21 à 24 parle du roi de Sodome. Mais le verset 17 va, dans le fond, avec la deuxième rencontre. Alors, on va regarder, on va aller dans le verset 18. Melchisédek, qui était cet homme-là? Alors, ça dit dans le verset 18, « Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. » C'est intéressant de regarder historiquement comment les rabbins juifs et certains chrétiens ont interprété qui était le personnage de Melchisédek. Les rabbins juifs l'ont identifié comme étant soit un ange ou soit Sem, qui était le fils de Noé. Mais on voit qu'il n'y a absolument rien dans le texte pour justifier une telle interprétation. Alors, certains commentateurs chrétiens, quant à eux, ont identifié le personnage de Melchisédek comme étant une théophanie de Christ. Autrement dit, ils ont dit, c'est Christ incarné dans une chair d'homme qui se présente à Abraham après une victoire pour une raison, et là, ils peuvent élaborer toutes sortes de raisons, mais encore ça, même là, il n'y a rien dans le texte qui peut justifier une telle interprétation. Alors, c'est un petit peu des interprétations qui ont été un petit peu fantaisistes et qui ne résistent pas à ce qu'on pourrait appeler une exégèse sérieuse. Une exégèse sérieuse, c'est que tu ne fais pas dire au texte que ce qu'il ne dit pas, puis tu ne pars pas avec tes fantaisies personnelles pour interpréter le texte. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la signification de son nom. Le nom Melchisédek veut dire « roi de justice ». Bon, maintenant, ça dit aussi qu'il était le roi de Salem. Salem, selon les Écritures, selon les commentateurs, c'est Jérusalem. Alors, il était roi de justice et Jérusalem veut dire roi de paix. Et quand on va étudier hébreu, là, le Seigneur se sert des deux titres pour parler de Christ en disant qu'il est le roi de justice et en disant qu'il est le roi de paix en même temps. Les deux personnages. Alors, bien sûr, la présentation de Melchisédek a un lien très fort pour présenter prophétiquement la personne de Christ. Parce que, juste pour revenir un petit peu dans Hébreu, quand, dans l'Épître aux Hébreux, on dit que certains pensent que c'est Paul qui l'écrit, d'autres disent que c'est d'autres, mais c'est pas important. C'est la personne qui écrit l'Épître aux Hébreux est en train de vouloir convaincre les Hébreux d'abandonner leur vieux système de sacrifice d'animaux et tout ça qui tourne autour de ça. Alors, on sait qu'il y avait des sacrificateurs, il y avait un souverain sacrificateur qui, lui, ne pouvait entrer dans la tente qu'une seule fois par année. Et le souverain sacrificateur, bien entendu, pointait vers le souverain sacrificateur, qui est la personne de Jésus-Christ. Mais il y avait un problème, parce que pour être souverain sacrificateur, il fallait que tu sois un Lévite. Il fallait que tu sois de la tribu de Lévi. Et Jésus, dans sa naissance, était de la tribu de Judas. Alors, les Juifs voyaient un immense problème là-dedans. Et c'est là qu'on va, ramener tantôt certains versets du psaume 110, certains versets d'Hébreu, pour dire que Jésus avait le mandat de son propre Père, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » De là l'importance de saisir l'importance de ce nom-là. Théologiquement, Dieu est en train de s'en servir pour une raison très importante. Alors, quand on va dans le psaume 116, pour parler du fait que roi de Salem, on dit dans le texte qu'il était roi de Salem, dans le psaume 116, versets 1 et 2, ça dit « Au maître chante, psaume d'Azaph, cantique avec instrument à cordes, Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël, son tabernacle est à Salem et son domicile en Sion. » Donc, la plupart des commentateurs sont en train de dire que le roi de Salem, c'était roi de Jérusalem. Alors, c'était qui veut dire « roi de paix ». Alors, Salem est donc Jérusalem, il signifie « fondement de la paix ». Melchisédek est donc à la fois roi de justice et roi de paix, Et on va, bien sûr, je ne veux pas reprendre toute l'étude qu'on a faite dans Hébreux, ce serait trop long, mais c'est de voir que quand Dieu nous présente, moi, ce que ça me montre, là, quand je vois des choses comme ça, on lit donc les Écritures rapidement. On lit donc les Écritures sans nécessairement réfléchir et questionner le texte. Pourquoi il y a un personnage ici qui s'appelle Melchisédek? Il sort de où? On ne sait pas. Et c'est quoi? Pourquoi Dieu nous le présente là? Parce que plus tard, il va nous parler de lui dans d'autres passages où il va nous faire comprendre l'importance de ce personnage-là. Alors, on dit de lui aussi, de ce personnage-là, qu'il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Donc, sacrificateur de El Elyon. Alors, l'introduction du personnage qu'on pourrait qualifier d'énigmatique jouera un rôle très important dans les Saintes Écritures pour présenter l'office de roi et sacrificateur du Seigneur Jésus-Christ de façon typologique. Et là, je vais vous poser des questions. Est-ce que vous vous souvenez de tout ce que je vous ai dit sur qu'est-ce que c'est un type et un antitype? Vous allez me répondre fort probablement non. Mais on va le reviser, parce que c'est important. Quand on arrive sur des concepts comme ici, là, Melchisédek, on dit que c'est un type de Christ. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que c'est un type? Et qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que Jésus-Christ est l'antitype? Alors, on va réviser ça, parce que ça va nous faire du bien de le réviser. Maintenant, on a vu qui il était. Donc, roi de justice, roi de paix, sacrificateur de El Elyon, ou du Dieu Très-Haut. Maintenant, ce qu'il a fait dans le verset 18 et la première partie du verset 19, « Et il bénit Abraham. » Normalement, qui est le plus grand, celui qui bénit ou celui qui reçoit la bénédiction? Celui qui bénit. Alors, si Melchisédek était grand au point de bénir Abraham, qui est le père des croyants, on croit qu'il y avait quelque chose là. Alors, il bénit Abraham. Et sa manière de bénir Abraham aussi, il a agi, il a amené du pain et du vin en repas de communion. Les gens revenaient de la guerre, du pain et du vin. Alors, on le sait, le pain sert à nourrir. Le vin sert à réjouir. Il amenait quelque chose pour réconforter les combattants. Alors, comment ne pas penser au repas du Seigneur par les deux éléments que le souverain sacrificateur amenait à Abraham? Je pense que tous ceux qui ont étudié ce texte-là voient une allusion au repas du Seigneur qui arrivera, qui sera institué beaucoup plus tard. Alors, bien sûr, la scène ici est préfigurée. Il bénit Abraham et sa victoire. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il dit dans les versets 19b, la deuxième partie du verset 19 et la première partie du verset 20. Il l'a béni, mais il a dit quelque chose de particulier qu'il faut s'attarder à examiner. Il dit: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut. Et là, il l'identifie qui est ce Dieu-là, fondateur des cieux et de la terre. Autrement dit, il est le Créateur. Il faudrait reviser nos notions quand on avait étudié Genèse. La grandeur de l'univers, je ne m'en souviens pas par cœur, mais les millions d'étoiles, c'était grand l'univers de Dieu. Dieu est puissant. Alors, il est en train de rappeler que le Dieu qui a donné la victoire à Abraham, c'est ce grand Dieu-là dont on a même les chiffres qu'on utilise, je me souviens pas des chiffres exactement quand on a fait ça, mais je me souviens que c'est tellement énorme qu'on dit selon l'expression, on en perd notre latin un peu. Alors, et donc il lui dit, béni soit Abraham, mais il lui dit que la bénédiction, par qui elle est venue? Elle est venue par El Elyon, le Dieu Très-Haut. Et il lui rappelle que c'est le Créateur, que c'est le Dieu Créateur et c'est le Dieu qui domine tout ce qui se passe. Le Dieu, le grand souverain, le roi des rois. Là. Et il lui rappelle ce personnage-là. Et dans le verset 20, il lui dit d'autres choses. Donc, il commence par bénir le personnage d'Abraham. Et la deuxième chose qu'il fait, il bénit Dieu lui-même. On peut bénir Dieu. Bénir Dieu, c'est simplement dire du bien de lui. Et il est béni, dans le verset 20, il dit, « Et béni soit Dieu le Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Ici, c'est très clair, le personnage de Melchisédek est en train de rappeler à Abraham, « Enfle-toi pas la tête en jouant conquérant, c'est au moins que tu fais ça, là. » Rappelle-toi que si tu l'as eu, la victoire, c'est parce que Dieu te l'a donné. Important, il y a des leçons importantes pour nous aussi aujourd'hui là-dedans. Si on a des victoires, on a des luttes à mener, et que Dieu nous donne des victoires, rappelons-nous, nous aussi, que c'est Dieu qui nous les donne. Alors, il bénit Abraham par Elion, dans le verset 19b. Alors, sa bénédiction, bien sûr, il l'attribue au Dieu Très-Haut, le Tout-Puissant, le Créateur, le Dominateur, le Souverain, le Suprême des cieux et de la terre. Et il bénit Elion lui-même, Dieu, pour la victoire qu'il a accordée à Abraham dans le verset 20. Melchisédek reconnaît que le triomphe d'Abraham trouve sa cause ultime dans le Dieu Très-Haut. Et je pense qu'il a le personnage, on voit toute son intelligence, il comprend ce qui se passe. Il ne confond pas la puissance d'Abraham personnellement et les bonnes actions qu'il a fait, mais il comprend qu'en arrière de tout cela, Dieu est présent. Je pense qu'il y a une leçon importante à s'arrêter. Quand on médite les Écritures, c'est ça qu'on devrait dire. Qu'est-ce que tu veux me montrer à l'intérieur d'un verset ou deux versets? Qu'est-ce que tu veux me montrer pour appliquer cela dans ma vie personnelle? Si on lit les Écritures et qu'on y voit qu'une histoire intéressante et qu'on n'applique pas ça à notre vie tous les jours, on manque le bateau. Les Écritures nous ont été données, selon le Nouveau Testament, pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Alors, si ça a été donné pour notre instruction, je pense qu'on est en droit de questionner le texte. Qu'est-ce que tu veux me montrer à moi personnellement, dans ma vie personnelle de tous les jours? Alors, apprenons que dans toutes nos prières, nous devons louer le Seigneur. N'est-ce pas que le texte nous apprend ça? Il reconnaît que Dieu est la source de la bénédiction. Sachons aussi que dans toutes nos victoires, nous devons lui donner toute la gloire. On en a des victoires dans nos vies. Si on n'en a pas, ce n'est pas normal. On est censé en avoir de plus en plus et un grand nombre. Et quand on les a, moi je peux vous dire une chose aujourd'hui, s'il y a une chose, je commence à comprendre un petit peu, ma faiblesse, ma misère, et que j'ai besoin de l'Éternel dans tous les gestes de ma vie. Parce que sans lui, je commence à comprendre un peu ce que le Seigneur Jésus disait. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, il faut s'habituer à voir notre petitesse, à voir sa grandeur, à voir sa miséricorde, à voir sa bonté. N'oublions pas non plus de jamais de le remercier pour ses innombrables miséricordes. Dieu nous témoigne d'innombrables miséricordes quotidiennement, depuis... Même avant notre régénération, après notre régénération, on en a reçu encore plus. Des miséricordes, c'est des bontés de Dieu. Il voit notre misère et il la soulage de différentes façons, par différents moyens. Alors, comme Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué Dieu et il s'est réjoui en lui. Regardons Luc 10. Allons-y dans ceux qui ont leurs Écritures, là. On va lire un texte important pour nous montrer comment Christ lui-même agit face à son Père. Dans Luc 10, versets 20 à 23, ici c'est le Christ qui parle. Il dit « Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce même instant, Jésus tressaillit de joie en son esprit et dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, ô Père, cela est ainsi, parce que tu l'as trouvé bon. Verset 22, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît qui est le Fils que le Père, ni qui est le Père que le Fils, et celui à qui le Fils le voudra révéler. » Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Nous aussi, heureux les yeux, nos yeux qui voient ce que nous voyons. Peut-être pas physiquement, mais on voit quand même le personnage de Jésus-Christ, qui il est, ce qu'il a fait sur la terre, sur la croix. Et heureux les yeux qui voient ce que l'on voit. Maintenant, on a vu qui il était, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Maintenant, on va regarder ce qui fait, ce qui fut fait à Melchisédek. Parce que ça dit, dans le verset, la dernière partie du verset 20, « Et Abraham, le père des croyants, lui donna la dîme de tout. » La dîme, c'est 10%. Autrement dit, dans tout ce qu'il avait ramassé, qu'il avait ramené les biens, il a voulu donner 10% à Melchisédek. Pour quelle raison? Parce qu'il était le représentant de Dieu. Et il savait qu'il était le représentant de Dieu. Et la dîme, il la donne à celui qu'il considérait comme étant son supérieur. Alors, la supériorité de Melchisédek est reconnue par Abraham. Il veut lui donner la dîme de tout. Il est supérieur à Abraham et il est aussi supérieur à Aaron. Qui était Aaron? Le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. La sacrificature lévitique, qu'on a parlé un petit peu tantôt. On va aller dans Hébreux, chapitre 7, versets 4 à 10, parce que là, on va voir une des raisons pour laquelle le Seigneur introduit ce personnage-là à ce moment précis-là de l'aventure d'Abraham dans la guerre. Hébreux 7, versets 4 à 10. Ici, il est en train de parler aux Hébreux. Il est en train de parler à ceux qui avaient la sacrificature, l'Ancien Testament, il fallait que tu sois un descendant, il fallait que tu sois un fils de Lévi. Et si tu ne pouvais pas prouver que tu étais un fils de Lévi, tu ne pouvais pas devenir sacrificateur. Et encore moins un souverain sacrificateur. Parce que ça, il n'y en avait rien qu'un. Il y avait plusieurs sacrificateurs, mais il y avait uniquement un souverain sacrificateur. Alors, ça dit, or, il est en train de parler à des Juifs, il leur dit, or, considérez combien est grand celui à qui Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Qu'est-ce qu'il fait référence? Il fait référence à quoi, là? Il fait référence à Genèse 14. Alors, les Écritures, ça se tient. Alors, il est en train de les ramener dans l'Ancien Testament. Et tandis que ceux d'entre les fils de Lévi qui exercent la sacrificature ont l'ordre, selon la loi, de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Lui, qui n'était pas de la même famille qu'eux, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ce sont des hommes mortels qui prélèvent les dîmes, mais là, il est attesté que celui qui les reçoit est vivant. Et Lévi, qui prélève les dîmes, les a aussi payés, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla devant lui. Ici, il y a une vérité qui est en train de dire, les sacrificateurs de l'Ancien Testament n'étaient pas nés encore, pour plusieurs d'entre eux, parce que ça s'était passé dans l'Ancien Testament. Mais il était dans les reins de leur père. Autrement dit, l'image que les Écritures veulent nous dire, c'est que, étant dans les reins de leur père, eux aussi donnaient la dîme à Melchisédek. Il faut voir l'image. Si on ne la voit pas, quelque part, on manque le bateau. Alors, il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek allait devant lui. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que les sacrificateurs de l'Ancien Testament, tous étaient dans les reins d'Abraham, et Abraham, en présentant la dîme à Melchisédek, Tous les sacrificateurs présentaient la dîme également à Melchisédek. Donc, ils reconnaissaient que la sacrification de Melchisédek était supérieure à la leur. Maintenant, on va regarder un petit peu. Tout à l'heure, je vous disais, il faudrait vous faire venir en avant, là, puis que vous me disiez qu'est-ce que c'est un type, qu'est-ce que c'est un antitype. Je ne vous blâme pas du tout parce que c'est des choses que, des fois, on les lit, on les comprend sous le coup, mais on a tellement de choses à apprendre et à retenir. Mais ce sont des concepts qui sont importants. Alors, on va regarder quelques versets. Bien sûr, on n'est pas en train de faire une étude exhaustive sur le personnage de Melchisédek et de tout ce qui a été écrit sur lui, mais on est en train de ramener quelques versets clés pour nous montrer qui était le personnage. Alors, on va regarder le psaume 110, verset 4. Quand on avait étudié Hébreu, bien sûr, on avait référé à ce passage-là, parce qu'il dit quelque chose d'une importance extrême concernant que Jésus-Christ est maintenant le nouveau souverain sacrificateur et qu'il n'avait pas besoin de descendre de la tribu de Lévi. Alors, si on regarde les versets 1 à 4 du psaume 110, psaume de David, remarquez bien la première phrase. « L'Éternel a dit à mon Seigneur. » Autrement dit, Dieu a dit à Dieu. Parce que Seigneur, c'est Dieu, puis l'Éternel, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui parle à Dieu. Alors, quelque part, tout de suite, là, on devrait se poser une question. Si Dieu parle à Dieu, il faut que ce soit Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils, ou à quelque part, un des personnages. Et là, il lui dit, « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton sceptre puissant. Domine, dira-t-il, au milieu de tes ennemis. Ton peuple sera un peuple de franche volonté au jour où ton armée sortira dans une sainte pompe. Ta jeune milice sera devant toi comme la rosée naissant du sein de l'aurore. » Et c'est vraiment le verset 4 qui est le verset clé à l'intérieur de ça. Alors, il faut réaliser que Dieu parle à Dieu dans ce verset-là. Et il dit, l'Éternel l'a juré, remarquez bien les choses qui sont dites, l'Éternel ne ment jamais. Mais quand l'Éternel jure, selon vous, il veut-tu mettre une emphase sur une idée? Ben oui, il est en train de vouloir dire que ce que je suis en train de dire là, c'est d'une puissance et d'une vérité que vous ne pouvez même pas soupçonner. L'Éternel l'a juré et ne s'en repentira point. Quand Dieu dit, puis jure en plus, oh, là, il est en train de dire une vérité et de le dire avec solennité, avec poids. Et Dieu dit à Dieu, parce que c'est dans le verset 1, l'Éternel dit à mon Seigneur, l'Éternel l'a juré et ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour quelques jours. Non, à toujours. Tu es sacrificateur à toujours. La sacrificature de Christ a commencé où? Dans le ciel, avant même qu'il vienne sur la terre. Tu es sacrificateur pour toujours, à toujours, selon l'ordre de Melchisédek, pas selon l'ordre de Lévi. Parce que les sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient des enfants. Il fallait que tu sois un descendant de Lévi, sinon tu ne pouvais pas être sacrificateur. Et ici, tu es en train de parler de Christ. Parce que quand Christ est venu sur la terre, il n'était pas un Lévite. Et bien sûr, ça posait un énorme problème dans la tête des Juifs de l'époque. Jésus, on sait de quelle tribu il est. Il est de la tribu de Judas. Il ne peut pas être sacrificateur. Pas pour rien que celui qui écrit l'Épître aux Hébreux voulait les convaincre. Il peut être sacrificateur parce que retourner dans l'Ancien Testament, dans Genèse 14, retourner dans le psaume 110, et là, il leur recite les mots. Il dit, l'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur à toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux, chapitre 5, versets 5 et 6. On va aller un peu dans Hébreux parce que le développement du personnage de Melchisédek se trouve surtout dans Hébreux. Hébreux chapitre 5, versets 5 et 6. Alors ici, ça dit, « De même Christ ne s'est point attribué la gloire d'être souverain sacrificateur, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit « C'est toi qui es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il lui dit aussi ailleurs, d'après vous, il fait référence à quel verset, là? Psaume 110, verset 4. « Tu es sacrificateur pour l'éternité. » Alors, tout à l'heure, il disait « pour toujours », et là, il lui dit « Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. » On va aller un petit peu plus loin, Hébreux, chapitre 6, les versets 17 à 20, et les trois premiers versets du chapitre 7. Alors ici, il y a quelque chose de très important qui est mentionné par rapport à la compréhension du personnage de Melchisédek. C'est pourquoi, verset 17, « Dieu voulant montrer encore mieux aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution. » Qu'est-ce que ça veut dire, immutabilité? Qui ne peut pas changer. Quelque chose d'immuable. Ça ne peut pas changer. Parce que Dieu a fait jurer. Dieu qui jure. Dieu, quand Dieu juge, imaginez la puissance, la force de ça. Intervint par le serment. Et regardez ce que le verset 18 dit. Afin que par ces deux choses immuables. C'est quoi les deux choses immuables? Dieu parle, puis Dieu parle par serment. Donc, Dieu parle, c'est déjà immuable en soi, mais quand Dieu se donne la peine de jurer par-dessus, oh là, c'est plus qu'immuable. Il dit, afin que par ces deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une ferme consolation, nous qui cherchons un refuge dans la ferme possession de l'espérance qui nous est proposée. Espérance que nous gardons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, et qui pénètre au-dedans du voile, où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Et on va lire les trois premiers versets du chapitre 7. « Car c'est ce Melchisédek, roi de Salem et sacrificateur du Dieu souverain, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit, à qui aussi Abraham donna la dîme de tout le butin. » D'abord, Melchisédek signifie « roi de justice ». De plus, il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il a été sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure sacrificateur pour toujours. Et oui, dans le texte, quand ça dit « rendu semblable au Fils de Dieu », ceux qui l'ont identifié comme étant une théophanie, l'erreur théologique, on peut l'identifier ici. Quand quelque chose est semblable, ce n'est pas la chose elle-même, c'est quelque chose qui ressemble. Pourquoi Dieu a voulu que le personnage de Melchisédek, on le connaisse? Parce que les rois à l'époque, pour devenir roi, il fallait que tu puisses montrer de qui tu venais. Tu étais fils d'un tel, de telle famille, c'était n'importe quelle royauté, que ce soit de France, d'Angleterre, n'importe où. Il fallait que tu puisses démontrer que tu pouvais acquérir le titre de roi. Mais lui, l'Éternel nous dit qu'il était roi, mais qu'on ne peut pas savoir c'est qui son père. On ne peut pas savoir c'est qui sa mère. Il n'y a pas de généalogie, on ne peut pas déterminer fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Pourquoi l'Éternel nous présente ça? Parce qu'il voulait qu'il y ait une similitude entre le personnage de Melchisédek et le personnage de Jésus-Christ, qui, lui, non plus, n'a pas de commencement, pas de père physique, il y avait un père divin, il n'y avait pas de mère. Il y avait une mère, souvent on dit mère de Dieu, moi je trouve que c'est un abus de langage. Dieu ne peut pas n'avoir de mère. Et sans généalogie, bien sûr, dans un sens, humainement, il avait une généalogie Jésus, mais pas divinement. Et c'est ça qu'il est en train de vouloir comparer, le personnage que Dieu, le Saint-Esprit, n'a pas voulu qu'on sache ses origines, son père, sa mère, sa généalogie, pour que la prophétie que le Seigneur est en train de faire avec ça trouve une similitude. Voyez-vous que ces riches, juste ont lu un passage, et si quelqu'un prendrait la peine de fouiller, aller voir partout ce que Melchisédek est mentionné dans les Écritures, on apprendrait ça. On lit parfois les Écritures paresseusement. On ne questionne pas le texte. Et c'est à notre propre détriment, parce que les Écritures, quand on questionne le texte et on demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par ça? Les Écritures, là, on n'apprend pas la signification des Écritures paresseusement. C'est un peu comme quelqu'un qui cherche de l'or. Il pique, il casse du roc, puis il finit par découvrir de l'or. Mais dans les Écritures, c'est pareil. Parfois, ça demande du travail, ça demande de la méditation, ça demande de la réflexion. Mais quand on trouve l'or, on est-tu content ou on n'est pas content? On est vraiment content. On découvre des choses extraordinaires. Sa généalogie n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. Maintenant, on va revenir un petit peu à la notion de type et d'antitype. Parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de savoir si on veut dire des Écritures à certains endroits, qu'on rencontre certaines choses. Ça, c'est un type de Christ. Alors, si on comprend les principes, on va être capable d'appliquer cela à différents personnages ou à différents événements, comme on va le voir. Alors, on va commencer par la définition. Une définition de qu'est-ce que c'est un type dans les Écritures. Un type, c'est une personne. Donc, ici, dans l'occurrence, c'est Melchisédek. Ou ça peut être un autre personnage. C'est soit une personne, soit un événement, ou soit une chose, comme le tabernacle. Un événement, le repas du Seigneur, dans Exode 12, quand il y avait le fameux la Pâque juive, il fallait qu'il fasse une certaine affaire, et tout cela pointait vers la réalisation en Jésus-Christ. Donc, quand on fait une révision, un type, c'est une personne, un événement, comme la Pâque juive, l'agneau pascal, ou une chose, le tabernacle. Et là, je prends un exemple de chaque, mais on pourrait multiplier. Donc, il faut que ça vienne de l'Ancien Testament, que ce soit un type. Parce qu'un type, c'est une prophétie, c'est quelque chose qui va se réaliser dans le Nouveau, par la personne de Christ. À quelque part, il faut que ce soit dans l'Ancien Testament. Et autre chose qui fait partie de la définition, il faut que ça ait une réalité historique. À quelque part, le personnage de Melchisédek était un homme, il est mort un jour. Dieu n'a pas permis qu'on ne sache rien sur sa vie, parce que ça voulait enseigner quelque chose, et Dieu se sert de son nom pour nous emmener dans le psaume 110, au verset 4, pour nous dire « La souveraine sacrificature de Christ, ça va être selon son ordre à lui. » Alors, ayant une réalité historique, il faut qu'à quelque part, ça ait existé dans l'histoire de l'Ancien Testament, qui comporte une intention divine. Autrement dit, le Seigneur a mis cela pour nous donner quelque chose qu'il voulait nous enseigner sur la venue future d'un personnage qui s'appelle Jésus-Christ. L'intention divine. Et l'intention divine, c'est quoi? Préfigurer. Ça veut dire que le Seigneur, ça sert de quelque chose, une personne, un événement, une chose de l'Ancien Testament, une réalité historique. L'intention divine, c'est de vouloir nous présenter quelque chose qui a un rapport avec l'accomplissement de la préfiguration. Et qui comporte aussi un élément prophétique. Selon vous, est-ce qu'il y a un élément prophétique dans le texte ici? Est-ce que c'est un type? Pour répondre au type, il faut tout qu'il y ait ça. Personne, événement, une chose, avec une réalité historique, comporte une intention divine, celle de préfigurer, qui comporte aussi un élément prophétique. C'est en train de parler de Jésus-Christ dans les psaumes 110, dans Hébreux, dont l'accomplissement se trouve dans le Nouveau Testament et qui manifeste la supériorité de l'antitype sur le type. Alors, voyez-vous, dans un type, quand on dit de quelque chose dans les Écritures, que c'est un type, il faut que ça réponde à toutes ces choses-là, sinon c'est pas un type. Ça peut être un symbole, mais un type, il faut que ça réponde à tout cela. Alors, qui va manifester la supériorité? Alors, est-ce que dans l'Épître des Hébreux, l'auteur développe très bien l'idée de la supériorité de Christ sur l'ancienne sacrificature des animaux? C'est clair. Alors, l'antitype, c'est la personne de Christ parce que ça vient accomplir ce qui était préfiguré de lui dans l'Ancien Testament. Et l'antitype, quand on parle d'un type, l'antitype, c'est toujours Jésus-Christ. Quand on parle du tabernacle, on a étudié le tabernacle ensemble. De qui ça parlait? Je ne dirai pas de quoi, parce que de qui ça parlait, le tabernacle? Ça parlait de Christ. Tout parle de Christ dans le tabernacle. Quand vous étudiez Exode 12, que vous l'étudiez le repas, la Pâque juive, qu'est-ce que ça parle, là? Tu as un animal, manger, les herbes, tout ça, que le Seigneur a fait le soir qu'il a institué le repas du Seigneur, qu'on fait encore aujourd'hui, il faisait une Pâque juive. Donc, c'est un événement. C'est quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament, mais qui maintenant, lui, était l'accomplissement dans le Nouveau Testament de ce quoi ça voulait préfigurer. C'est tellement intéressant. Quand on commence à intégrer ces notions-là et à les garder dans notre mémoire, et que quelqu'un dit, ça c'est un type de Christ, là, on peut vraiment, intellectuellement, une vraie jouissance. Ah, OK, ça pointe vers là, ça pointe vers tel aspect de Christ, ça pointe vers tel... C'est merveilleux, les Écritures sont riches, et il faut s'habituer avec ces notions-là. Alors, on va prendre des exemples. On n'aura pas vraiment une étude exhaustive, parce qu'on aurait des années, mais on va prendre quelques exemples de ce qu'on vient de dire qui correspondent à la définition. Des personnes, est-ce que Aaron, c'est un type de Christ? Oui. Melchisédek, on a pris deux. Des événements, la Pâque juive, est-ce que c'est un type de Christ? La fête de la Pentecôte, dans l'Ancien Testament, ça correspond à quoi? Quand l'Esprit-Saint est descendu, la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit-Saint. Alors, quand on étudie la fête de la Pentecôte dans l'Ancien Testament, ça pointe vers la descente du Saint-Esprit sur une multitude d'hommes. Après ça, on a la fête des trompettes, la fête des tabernacles, le sabbat. Toutes ces choses-là, là, c'est des types, et c'est une étude tellement intéressante quand on veut donner la peine de la faire. Maintenant, des choses. Le tabernacle, le rideau qui séparait le Saint du Saint des Saints, l'offrande de l'Holocauste dans Lévitique. Souvent, Lévitique, moi je me souviens, on a étudié le livre de Lévitique dans le temps que j'étais à l'île d'Orléans. On a besoin d'étudier ce livre-là. Parce que quand on lit ça la première fois, je peux vous assurer quelque chose, on ne comprend pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le lien entre ce qui est mentionné dans le texte et la personne de Christ. À partir du moment où que tu vois dans ce qui est dit dans Lévitique, dans les sortes de sacrifices, et que tu vois Christ comme pendant de tout cela, comme accomplissement de tout cela, ça devient très beau. Tu tombes en amour avec Lévitique. Si on dit ça avec le monde aujourd'hui, Lévitique, c'est un livre que tu aimes. Je comprends pas grand-chose. Ben ouais. OK. Donc, les offrandes de prospérité, l'offrande de fleurs de farine, l'offrande des sacrifices pour le péché, etc., c'est tous des choses qui pointent vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et quand on étudie ça en profondeur, on est profondément béni. Et là, les Écritures deviennent plus intéressantes pour nous. Alors, la personne de Melchisédek est utilisée comme type de Jésus-Christ. Et ce personnage-là présente des caractéristiques qui sont vraiment significatives. D'abord, sa dignité. Il est roi de Salem, donc de Jérusalem, donc ça lui confère automatiquement un roi a de l'autorité et de la majesté. Autre caractéristique, il jouit d'un double office. Il est roi et sacrificateur du Très-Haut. Et Christ, lui, il a combien d'offices? Trois. Roi, sacrificateur et prophète. Alors, le but du texte aujourd'hui, c'est de se servir de deux caractéristiques de Melchisédek pour parler de Jésus-Christ. Troisième caractéristique, il a une double désignation. Il est à la fois roi de justice et roi de paix. Quatrième caractéristique, son apparition et sa disparition sont soudaines. Il arrive comme un cheveu sur la soupe et il disparaît comme un cheveu sur la soupe. Il y a quelque chose de similaire avec l'œuvre de Christ. Bien sûr, tout ça était prophétisé, mais est-ce qu'on l'attendait quand il est arrivé? Pas tant que ça. Les Juifs se demandaient ce qui se passait, ils contestaient tout ça. Alors, là, il est arrivé un petit peu pour eux, pour le peuple, pour ceux qui étaient vraiment allumés, puis qui étaient dans les Écritures, proches des Écritures, ils ont compris ce qui se passait quand Christ est venu sur la terre. Mais très peu, très, très peu. Donc, son apparition et sa disparition sont soudaines. Et une autre chose qui est caractéristique de lui, c'est qu'il bénit Abraham de la part de Dieu. Donc, Dieu a dit, dans les promesses qu'il a faites à Abraham, il lui a dit, tu es le béni de tous les peuples de la terre. Tu vois, la bénédiction d'Abraham, là, si on pense qu'on la comprend, qu'on en saisit toute l'ampleur, ben moi, je vous dirais, méditons encore. Parce qu'il y a quelque chose de tellement grand dans ce que Dieu promet à Abraham. Alors aussi, une autre caractéristique, c'est que le personnage de Melchisédek, il bénit Dieu qui a donné la victoire à Abraham. Tout à l'heure, quand on a lu Luc, qu'est-ce qu'on a vu par rapport à Christ? « Je te bénis, ô Dieu, ô Père, de ce que tu as donné ça aux sages, aux enfants. » C'est qui ces enfants? C'est nous. « Et que tu n'as pas donné ça aux grands savants de la terre. » Il y a bien des grands savants de la terre qui comprennent absolument rien des réalités spirituelles. Puis nous, on est des ignorants, puis on comprend. Alors pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Et Abraham se soumet volontairement à ce personnage-là en lui payant la dîme. Alors bien entendu, je pense que le personnage de Melchisédek, le Saint-Esprit, avait intentionnellement caché la généalogie de Melchisédek. Donc, elle n'avait pas été enregistrée, elle n'avait pas été conservée, puis elle n'avait pas été écrite. C'était quelque chose de contraire aux coutumes des rois de l'Orient. Alors, le Saint-Esprit voulait ainsi faire ressortir le parallèle avec Christ. Jésus était sans père humain, sa mère Marie l'était seulement de son humanité et non de sa divinité. Le texte n'enseigne pas que Melchisédek était éternel non plus. Il était bien un homme mortel qui est mort comme tous les hommes. Il n'était pas une théophanie de Christ ni un ange. Le texte nous enseigne seulement que le Saint-Esprit n'a voulu laisser aucune trace de sa naissance ou de sa mort. Ce silence est volontaire et à dessein. Il symbolisait l'éternité de Christ. Alors, l'éternité de Christ, autrement dit, elle a été toujours l'éternel passé, il est toujours l'éternel présent et il sera toujours l'éternel futur. De voir le personnage de Christ, sa sacrificature, sa souveraine sacrificature est éternelle. Alors, la sacrificature de Christ est donc parfaite, complète, absolue, immuable, indestructible, efficace et divine. Il faudrait reprendre chacun des mots puis mettre beaucoup de commentaires, là. Mais c'est tellement grand là, ce qui est dit par rapport à Christ. Alors, Melchisédek est rendu semblable à Jésus-Christ pour plusieurs raisons. Première raison, il est un sacrificateur du Dieu Très-Haut qui est le souverain créateur et le Dieu suprême. Et on sait que on a vu tout à l'heure dans Psaume 110, verset 1 à 4, dans le premier verset, « L'Éternel dit à mon Seigneur, donc c'est Dieu qui dit à Jésus, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Donc, une similitude, c'est là. Il était aussi un roi, donc la majesté et l'autorité. Il était roi de justice, il était roi de paix. Il a béni Abraham, le père des croyants. Alors, on sait que le supérieur bénit l'inférieur. Il a reçu la dîme d'Abraham. Il n'avait pas reçu sa sacrificature par la généalogie naturelle, mais directement de Dieu. Il était aussi sacrificateur en dehors des limites d'âge de la sacrificature lévitique. Alors l'écrasante et infinie grandeur et supériorité de Christ nous est représentée à travers le type Melchisédek. Christ est l'antitype ou l'accomplissement dans le Nouveau Testament de ce que le type de l'Ancien Testament prophétisait et symbolisait. On fait une dernière chose avant de classe, comme ça arrive exactement comme j'avais pensé. Je pense qu'on va faire deux leçons avec tout cela. Il nous reste juste à faire un petit tableau comparatif entre les deux personnages, Melchisédek et Christ. Melchisédek était un roi humain et mortel. Christ est le roi des rois et immortel. Melchisédek est un roi de justice et de paix. Et les Écritures nous déclarent que Jésus-Christ est notre justice et est notre paix. Melchisédek était un sacrificateur du Très-Haut. Le Christ est un souverain sacrificateur par décret immuable, par serment. Melchisédek était un sacrificateur temporaire et terrestre, tandis que Jésus-Christ est un sacrificateur permanent et éternel. Melchisédek était sans prédécesseur ni successeur. Christ est éternel, donc sans commencement ni fin. Melchisédek était reconnu supérieur par Abraham. Donc, reconnaître Melchisédek, c'était reconnaître Christ, en quelque sorte. Reconnu supérieur par Lévi, virtuellement, dans ses reins. Donc, sacrificateur de Christ. La sacrificature de Christ est supérieure à celle d'Aaron, qui était la sacrificature de l'Ancien Testament. Et Melchisédek avait le pouvoir de dîmer, 10%, de bénir et de durer. Alors, Christ est l'infini supérieur et a le pouvoir de dîmer, de bénir et de durer toujours. Alors, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on regardera maintenant la rencontre d'Abraham avec le roi de Sodome, comment il a agi à travers de tout cela et combien il peut être un modèle de comportement à l'intérieur de tout cela. Alors, notre Dieu, merci encore une fois pour l'abondance que tu permets qu'on comprenne, les principes que tu permets qu'on saisisse et qu'on applique dans nos vies. Permets, Seigneur, qu'on étudie les Écritures avec plus d'attention. Et qu'on prie pour que tu bénisses et que tu permettes qu'on applique dans nos vies de tous les jours les principes que tu nous as enseignés pour ta plus grande gloire. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.